Le journal est présenté par Olivia Cohen. Bonsoir.
Bonsoir. Ils sont rentrés à Paris en ambulance. Le couple Tapie, agressé et secoué la nuit dernière. Le maire de Comble-la-Ville, où cela s'est passé, nous donne de leurs nouvelles. Il l'assure, ça tient le choc, un Tapie, vous l'entendrez. C'est au tour des hôpitaux militaires de prêter main forte pour la campagne de vaccination en France. Dès mardi, 7 de ces hôpitaux accueilleront des vaccinodromes pour injecter 50 000 doses par semaine. Dans ce journal, on vous emmène en Bulgarie, élections législatives. En pleine troisième vague de Covid-19, on craint des fraudes records, notamment une spécialité locale, les achats de voix. Et puis Julien Alaphilippe fait chou blanc autour des Flandres, c'est le Danois Kasper Asgreen qui l'a emporté.
France Inter.
Bernard Tapie et son épouse Dominique sont rentrés à Paris. Ils ont quitté dans une ambulance leur résidence de Comble-la-Ville où ils ont vécu une violente agression la nuit dernière. 4 cambrioleurs les ont ligotés avant de s'enfuir avec des bijoux et des montres. On ne connaît pas d'ailleurs le montant du butin. L'homme d'affaires et son épouse vont bien mais ils sont secoués, raconte Guy Geoffroy, c'est le maire de Comble-la-Ville.
Ils ont été frappés, il a été ligoté, il a reçu un coup de matraque, elle a été traînée par les cheveux dans diverses pièces pour que les individus en question essaient de lui faire sortir tout ce qu'il voulait prendre. Donc ils ont été très secoués physiquement et très choqués psychologiquement, comme tout le monde le serait bien sûr à leur place. Mais je les ai trouvés autant ce matin que tout de suite là où je suis allé à nouveau les voir, comme ils le sont toujours, c'est-à-dire des gens solides. Ça tient le choc, un Tapie, hein, c'est clair. Et il est très en colère parce qu'il trouve, il a raison, que tout ceci est une honte, qu'on n'a pas le droit de se comporter comme ça envers qui que ce soit. Il a vécu ça comme une vraie épreuve, parce que je crois que personne n'aimerait à 2h du matin être réveillé aussi sauvagement comme il l'a été, être l'objet, lui et surtout son épouse, d'actes aussi inqualifiables. Oui. Un Tapie de la belle époque, capable d'être en colère et vraiment, sincèrement, profondément en colère.
Guy Geoffroy, le maire de Comble-la-Ville, c'est en région parisienne, au micro de Valentin Dunat. Le président de la République s'est lui-même fendu d'un coup de téléphone. Emmanuel Macron a pris des nouvelles du couple, il les a appelés dans l'après-midi. Des substances permettant de fabriquer des explosifs ont été retrouvées dans sa chambre. À Béziers, une jeune femme de 18 ans interpellée chez elle la nuit dernière dans la cité de la Devèze. Elle est soupçonnée d'avoir eu le projet de commettre un attentat terroriste. Ses 3 sœurs et sa mère ont elles aussi été arrêtées pour des vérifications. Le parquet national antiterroriste a ouvert une enquête préliminaire pour association de malfaiteurs terroristes. Les téléphones et ordinateurs de la famille seront exploités. Les gardes à vue se poursuivent. Selon les autorités françaises, cela permettra de vacciner plus et plus vite. 7 hôpitaux militaires accueilleront dès mardi des vaccinodromes permanent en région parisienne, à Clamart et Saint-Mandé, également à Marseille, Toulon, Brest, Metz et Bordeaux. Et Hervé Grandjean est le porte-parole du ministère.
Concrètement, à partir de la semaine prochaine, nous allons vacciner à peu près 1000 personnes par jour dans chacun de ces 7 hôpitaux. Et ce seront donc globalement 50 000 Français qui seront vaccinés chaque semaine par des militaires du service de santé des armées. À ce stade, nous restons sur des hôpitaux militaires en dur, en Île-de-France, en région PACA, en Bretagne, en Nouvelle-Aquitaine et dans la région Grand Est. Et ensuite, on pourrait, si les besoins se font ressentir, déployer des centres mobiles de vaccination, des centres militaires de vaccination.
Quel sera le vaccin que vous allez administrer ?
Alors, nous ne sommes pas responsables de la logistique de ces vaccins et du type de vaccin qui est livré dans nos hôpitaux militaires. Donc, nous administrerons ce qui nous sera délivré par les agences régionales de santé, mais en la matière, nous sommes œcuméniques et nous vaccinerons avec les marques de vaccins qui nous seront données.
Hervé Grandjean, le porte-parole du ministère des Armées, il répondait à Jules de Kiss. Un reportage de la chaîne télé M6 sur l'existence de dîners clandestins haut de gamme à Paris fait réagir ces dernières heures. Selon ce reportage, ces dîners sont facturés entre 160 et 490 euros. Ils se déroulent sans masque et même des ministres, des membres du gouvernement y auraient participé. Ce soir, dans un tweet, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, demande à la préfecture de police de vérifier l'existence de ces dîners et de poursuivre, si nécessaire, organisateurs et participants. Cette semaine, retour de l'école à la maison, avant d'enchaîner avec 2 semaines de vacances scolaires pour toutes et tous. À la même date, la France est entrée ce week-end dans son 3e confinement pour au moins 4 semaines. Les déplacements au-delà de 10 km autour de chez soi sont interdits. Les forces de l'ordre sont encore tolérantes. monde jusqu'à demain pour ceux qui ont encore de la route à faire pour aller se confiner loin des grandes villes. En Bulgarie, élections législatives aujourd'hui sur fond de troisième vague de Covid-19 avec des hôpitaux qui débordent. L'abstention dans ce pays est un fléau et pour ne rien arranger, la pandémie dissuade évidemment les électeurs de se rendre aux urnes. Alors, des bureaux de vote ont été installés dans les hôpitaux, des urnes mobiles ont fait du porte-à-porte auprès des familles en quarantaine. Mais ce que redoutent les Bulgares qui accusent le gouvernement sortant de corruption, c'est l'achat massif de voix par les partis. Cela représente en temps normal entre 5 et 20% des voix, mais sous l'effet de la pandémie, le phénomène pourrait s'amplifier. À Sofia, les précisions de notre correspondant Damien Vodenicharov.
L'achat et la vente de voix sont des crimes. Cette petite phrase de rappel doit figurer dans chaque clip de campagne et sur chaque affiche. Et c'est bien vrai. Ce type de fraude électorale est passible de 1 à 6 ans de prison et de 5 000 à 10 000 euros d'amende. Mais c'est aussi un phénomène qui fait partie du processus démocratique depuis la chute du communisme. Les groupes organisés se mobilisent tard dans la journée, explique le sociologue Anthony Galabov de l'ONG Transparency International.
On s'attend à ce qu'il y ait davantage de personnes motivées par l'argent en fin de journée. C'est cette zone grise de la fin de journée qui est la plus dangereuse. L'attention publique est alors tournée vers les plateaux de télévision.
L'achat de voix est un phénomène de grande échelle en Bulgarie. Une voix peut être marchandée entre 25 et 50 euros et la pratique est tellement répandue qu'elle peut influencer le scrutin.
Nous évaluons l'influence de ce marché de voix depuis 2009 et rien n'a changé depuis. Il représente 16, 17, 18% de toutes les voix. Ce marché illicite n'a jamais été entièrement mobilisé, mais cette année, les campagnes électorales ont été bien financées.
Dans les jours qui suivent les élections, les différents partis politiques s'accusent souvent mutuellement d'avoir commis des fraudes et des violations du code électoral. Les appels à l'annulation du scrutin sont également en chose courante. Mais toutes ces accusations aboutissent rarement à des procès.
En cyclisme, c'est Casper Asgreen, équipe de Koenig, qui remporte le Tour des Flandres, qui s'est déroulé à huis clos aujourd'hui. Le champion danois a franchi la ligne d'arrivée à Oudenaarde en Belgique. Asgreen devance le néerlandais Mathieu Van Der Poel dans un sprint final. Fanny Lechevestrier, vous avez suivi la course, bonsoir.
Alors, bonsoir.
Mathieu Van Der Poel est donc privé de doublé.
Et oui, le petit-fils de Raymond Poulidor semblait pourtant bien parti pour réaliser cet exploit que seuls 7 coureurs ont réussi en 105 éditions du Tour des Flandres. Le Néerlandais avait réalisé la course parfaite. Il écœurait un à un tous ses adversaires, tous, sauf, vous l'avez dit, le Danois Casper Asgreen qui s'est imposé au sprint. Côté français, comme on le craignait, Julien Alaphilippe s'est révélé un peu juste. Il a pourtant été à l'attaque, mais il a fini par craquer dans la 17e côte du jour. Aucun regret, nous a-t-il dit à l'arrivée, sincèrement heureux, et bien de voir, vous l'avez dit, son coéquipier Asgreen l'emporter. Mention spéciale encore pour deux autres tricolores, Florian Sénéchal 8e et Anthony Turgis 9e.
Fanny Lechevestrier, merci, vous étiez en direct depuis Oudenaarde en Belgique à l'arrivée du Tour des Flandres. La météo.
La météo avec les meubles Gautier, créateur, designer et fabricant français de meubles pour toute la maison. À retrouver dans nos magasins et sur gautier.fr.
Le temps, comment ça se passe pour les prochaines heures, Jean-Michel Golinski?
En termes de température, nous avons mangé notre pain blanc à partir de ce lundi et pour une bonne partie de la semaine, une vague d'air polaire va envahir le pays. Seront concernées ce lundi après-midi les régions de la moitié nord et une grande partie du pays les jours suivants avec le retour de gelées nocturnes. Ce lundi, le tiers sud va conserver un temps sec et ensoleillé, mais avec du vent en soirée près de la Méditerranée. Le nord de la Loire verra arriver très tôt une ambiance maussade qui va se décaler au fil des heures vers les régions centrales, laissant la place l'après-midi dans la moitié nord du pays à un ciel dégagé, mais poussé par un air beaucoup plus frais. En soirée, des averses parfois mêlées de neige sont probables près de la Belgique.
Des précisions signées Jean-Michel Golinski, merci.